Aujourd'hui, éloge de la lenteur.
Être et savoir. Louise Touret.
Ralentir, enfant. Le rythme que le monde du travail en particulier, imprime à la vie des adultes est-il adapté aux enfants ? Tous les spécialistes, pédiatres, pédopsychologues, nous appellent à ralentir, et ce, dans l'intérêt de tous, enfants et adultes donc. Mais le temps des petits est aussi une contrainte pour leurs parents. Des premiers jours sans sommeil aux infinies grasses matinées des adolescents, en passant par les couchers à 20h, parce qu'il y a école demain. Soumettre notre progéniture à nos horloges semble faire pleinement partie du travail éducatif, et ce n'est pas le plus agréable. Alors c'est pour ces raisons, cette importance du temps, que nous avons voulu nous pencher sur le sujet du prochain Salon du Livre de Jeunesse qui s'ouvre mercredi à Montreuil. En effet, ce sujet nous passionne, c'est l'éloge de la lenteur. Ça mérite qu'on s'y arrête, hein. Alors, dans une époque où la moindre parcelle de temps et de cerveau disponible aurait vocation à être mise à la disposition des images et des écrans, lire déjà s'affirme comme une résistance par la décélération. Et puis, si lire est en soi une expérience qui dilate ou modifie la densité du temps, le temps est aussi un grand thème de la littérature, notamment de la littérature jeunesse dont nous parlons aujourd'hui. Et en fin d'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert. Et là, ce sera une histoire de transmission familiale. C'est avec Firmin Grus, donc vous devinez que c'est une histoire de cirque. Merci à Valentin Bobinet qui assure la prise de son de cette émission. Avril Ventura est notre collaboratrice spécialisée. Et Philippe Baudouin, notre réalisateur. Cela signifie qu'il fabrique cette émission avec moi.
Quand on va très vite, évidemment, on n'a pas le temps d'accumuler une mémoire, une perception de la complexité des choses autour de soi. On est emporté dans un flux qui nous prive d'ailleurs pour une large part de notre autonomie et de notre responsabilité sur les événements.
Et pour répondre à cette vitesse, il nous faut de la lenteur, c'est ce que dit David Le Breton, nous l'entendrons tout à l'heure. David Le Breton est anthropologue et sociologue, professeur à l'université de Strasbourg et membre de l'Institut universitaire de France. Il va parler de la marche, vous l'entendrez, car elle a publié un ouvrage sur le sujet, Marcher, éloge des chemins et de la lenteur, on y revient. C'était en 2012 et un ouvrage aussi sur le silence. Bon, ça, à la radio, c'est plus compliqué. Pour en parler avec nous dans ce studio, Sylvie Vassallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, il faut le préciser, en Seine-Saint-Denis à Montreuil. Vous avez donc décidé, donc cette année, de consacrer le salon, alors pas tout le salon, hein, parce que c'est aussi l'actualité du livre jeunesse et on va y revenir. À la lenteur, l'éloge de la lenteur, pourquoi ?
Parce qu'on aime bien permettre aux enfants de plonger dans la littérature jeunesse pour réfléchir aux grands thèmes de la société, les thèmes dans lesquels finalement ils vivent, comme les grands, parfois on l'oublie, mais ils vivent exactement dans le même monde que nous. Et on se rend compte depuis plusieurs années que les enfants qu'on reçoit au salon ou avec lesquels on travaille sont vraiment très stressés par le rythme de notre société, et qu'ils le disent d'ailleurs. Ils n'ont pas le temps de rêver, ils n'ont pas le temps de bien dessiner, ils n'ont pas le temps de créer. Et donc on a voulu regarder comment la littérature de jeunesse, par son contenu, mais aussi simplement par le fait qu'elle est une littérature et qu'elle leur offre des temps de respiration, parce qu'elle leur offre des temps de lecture. Donc cette littérature est un moyen pour eux de ralentir le temps et de réfléchir à ce grand enjeu, de participer à ce grand enjeu de société.
Et deux auteurs qui se sont intéressés à ce thème du temps, hein, plus que de la lenteur, peut-être. Alors déjà, une autrice qui est sélectionnée dans les pépites, Rebecca D'Outremer, vous êtes avec nous au téléphone, bonjour.
Bonjour.
Alors je ne sais pas si vous préférez qu'on dise auteur ou autrice, moi j'ai tendance à dire autrice, en tout cas je suis sûre qu'on dit illustratrice. Et vous venez de publier Midi Pile, une aventure de Jacominus Ginsburg, et c'est chez Sarbacane, et c'est un livre absolument magnifique, dont il faut prendre le temps de tourner les pages. Comment vous le définiriez, ce format très particulier où chaque page est un petit peu découpée d'une certaine manière, qui fait qu'on joue avec les pages qui suivent, tout en les découvrant au fur et à mesure.
Écoutez, oui, c'est un livre qui utilise la technique de la découpe au laser, qui permet des découpes extrêmement fines, et je l'ai utilisé au maximum. Le livre est entièrement creusé dans son épaisseur, il y a plus de 200 pages qui sont découpées comme ça et qui reforment un espace à l'intérieur de l'épaisseur du livre. Donc par rapport au temps, c'est sûr que vous n'avez pas le choix de le prendre pour le feuilleter, parce que de toute façon, c'est un livre qui, la fragilité de ce livre en fait la beauté, et il vous faut absolument tourner les pages avec délicatesse, sinon vous y êtes tout, quoi. Donc rien que pour ça, c'est un livre qui se déguste avec du temps.
C'est effectivement très visuel, il y a aussi beaucoup de détails, et c'est ce qu'on aime souvent dans les albums, c'est pouvoir regarder dans l'image et re-regarder, prendre le temps d'admirer les petits détails, une petite fleur dans un coin, un arbre, un oiseau. C'est tout ça est dans ce livre. J'ai prononcé le mot oiseau, ça doit être parce que j'allais vous passer la parole. Victor Pouchet, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez consacré un livre aux oiseaux, un livre remarqué en 2017, Pourquoi les oiseaux meurent chez Finitude, et puis un livre jeunesse cette année. À l'école des loisirs, dans la collection 9, le Tsarevitch au pied rapide. Alors, c'est illustré par Violaine Leroy, mais c'est essentiellement un texte qui s'intéresse à la notion du temps.
Oui, un texte qui part d'une forme de distorsion du temps. C'est l'histoire d'un Tsarevitch, donc un fils de tsar. C'est un conte qui se situe en Russie et qui naît avec un petit don qui va se révéler évidemment une forme de malédiction. Il est un peu plus rapide que le reste du monde, donc il fait tout plus vite. Il marche plus vite, il mange plus vite, il parle plus vite. Et évidemment, ça procure des bonheurs, mais aussi un certain nombre de problèmes, et notamment des problèmes relationnels. Comment parler, comment rentrer en conversation, comment vivre tout simplement quand on est un peu décalé avec le temps.
Alors cette distorsion du temps, ce temps élastique, ce temps dont on ne comprend pas très bien comment il passe, c'est évidemment un grand thème de la littérature enfantine, c'est d'ailleurs un grand thème tout court pour la vie des hommes et pour toute la littérature. Mais si on s'intéresse à la littérature jeunesse, évidemment on pense à un personnage en particulier.
Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Ah, et une montre.
Oh, permets, moustache. Je suis en retard, en retard, en retard.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur.
En retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de... Au revoir, je suis en retard, en retard.
Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur lapin, attendez-moi.
Non, 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 non. Quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard, en retard.
Le lapin en retard, le lapin avec sa montre à gousset du dessin animé de Walt Disney, de 1951. C'est l'adaptation évidemment d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, où le temps et l'espace sont complètement tordus. Est-ce que Victor Pouchet, vous qui êtes aussi programmateur à la Maison de la Poésie, vous avez l'impression qu'il y a une poésie particulière à parler aux enfants de ce temps dont la perception change?
Oui, alors aux enfants et aux adultes, en fait, je pense que c'est quelque chose qui occupe une place immense dans notre vie. Et en fait, le livre, je l'ai pensé à partir de cette impression que le problème, un des problèmes majeurs que je rencontrais et que les enfants aussi rencontraient, c'était la question du rythme. Michaud dit le mal dans la vie, c'est le rythme des autres. C'est-à-dire que la difficulté, c'est d'accepter que, eh bien, on n'est jamais au même rythme que les autres. Ou bien on va un tout petit peu plus vite, ou bien on va trop lentement, ou bien on a le sentiment que le reste du monde avance trop vite. Et donc cette difficulté, elle est intrinsèque à nos existences, on peut pas vraiment en sortir, et évidemment elle est sans doute accentuée aujourd'hui par toute une série d'accélérations que produit l'intensité technologique de nos existences. Mais c'est ça qui m'a frappé, c'est regarder un enfant par exemple qui doit ranger sa chambre, et ça dure des heures. Pour lui peut-être ça dure, c'est très rapide, mais pour nous dans le l'impression que ça nous donne, c'est quelque chose qui se dilue extrêmement vite. Et donc ces distorsions qui sont sans doute plus fortes aussi face à l'enfant qui lui n'a pas encore tout à fait acquis la contrainte sociale du temps, c'est-à-dire qu'il a son propre rapport au temps qui va petit à petit s'aménager pour accepter ou pour suivre le rythme des adultes ou le rythme de la société. J'ai perdu le début de ma phrase, mais parce que ça va un peu trop vite ou trop lentement dans ma tête. Mais,
intéressant.
Mais oui, donc cette question du rythme qui s'impose et qui fait qu'on est toujours un peu en train de se battre pour trouver le bon tempo. Parfois même soit par rapport à soi, c'est-à-dire que moi très souvent j'ai l'impression que je fais les choses trop lentement, je lis trop lentement ou au contraire je lis trop vite et rien ne s'imprime et en fait je sais pas très bien comment en sortir, mais j'ai essayé de mettre ça en scène à travers ce livre.
Alors c'est tout à fait une histoire et elle est tout à fait pour les enfants. On sent que ça remue un thème un petit peu angoissant, mais l'histoire en elle-même, je le précise parce que j'ai lu attentivement, n'est pas du tout triste ou angoissante. C'est une belle réflexion que vous nous proposez sur la manière dont on perçoit ce temps et dont on peut le percevoir de manière tout à fait différente en restant la même personne. Et puis il y a aussi du plaisir à voir le temps s'écouler lentement, un plaisir peut-être mêlé d'une légère appréhension, c'est l'attente, et c'est ça dont vous avez choisi de parler, enfin je crois, Rebecca d'Outremer.
Oui, c'est ça, ce livre Midi-Pile est l'histoire d'un rendez-vous, à midi, donc d'où le titre, le rendez-vous a lieu normalement à Midi-Pile, et on suit deux personnages, celui qui attend par le texte, et on est dans sa tête, et son angoisse de voir arriver son rendez-vous, et le temps passe, il se demande si la personne sera bien à l'heure, etc. Donc on est un peu dans cette attente, et puis visuellement, dans l'image et dans les découpes donc qu'on fait défiler en tournant les pages, on est à la place de la personne qui se rend au rendez-vous. Donc on a le double point de vue, et le temps passe, et même s'il y a que quelques heures qui s'écoulent, j'essaye d'aménager le plus possible, de mettre le lecteur un peu sur le grill pour savoir si voilà les minutes s'écoulent de plus en plus doucement. Et midi moins 5 arrive, midi moins 2, midi moins 20 secondes, et est-ce qu'elle va arriver? Jusqu'au bout, j'étire le temps le plus possible, et voilà, je vous spoil pas la fin, mais...
Et je vais pas le faire non plus. C'est l'expérience de l'attente qui est une expérience du temps extrêmement forte. C'est une grande expérience d'élève. Hein. C'est aussi décrit évidemment par la poésie. On pense au poème Le Cancre, évidemment, de Jacques Prévert, à tous les élèves qui ont les yeux rivés sur l'horloge. Mais pour revenir au travail d'auteur, Rebecca d'Outremer, vos livres et ce livre, par exemple, quand vous le concevez, alors avec la découpe au laser, on a l'impression que c'est extrêmement compliqué, mais quel temps vous prenez à la fois pour l'histoire, pour le dessin et pour composer ces images qui se superposent de manière absolument spectaculaire et assez merveilleuse, je dois dire.
Alors moi, de façon générale, c'est vrai que je m'exprime pour ce qui est du visuel avec une technique qui demande beaucoup de temps, parce que comme vous disiez, j'aime bien être dans le détail, il y a des valeurs, il y a de la lumière, effectivement il y a des petits oiseaux ou pas, mais beaucoup de détails à regarder. Et plus, alors c'est peut-être un peu égoïste, plus je consacre du temps à mon travail, plus j'ai envie que le lecteur m'en donne, parce que je suis, voilà, c'est peut-être un peu d'orgueil de ma part, mais j'ai envie de donner beaucoup de choses à voir pour passer du temps avec celui qui va me regarder mon travail. Et c'est comme ça, en tout cas c'est ce que j'aimais moi, enfant, passer du temps sur une image, et je donne toujours en référence les tableaux de Bruegel où il y a des milliers de petites choses à voir. On a une seconde de temps, mais nous on y passe beaucoup de on peut y passer des heures pour regarder tout ce qui se passe dans le tableau, des petites choses qui se passent dans les coins, et c'est ce que j'essaye de refaire dans mes livres souvent, que le celui qui me lit puisse y passer du temps, s'arrêter, puis faire une parenthèse dans son propre temps à lui peut-être. Et du coup ce livre-là, c'est vrai, me demande du temps pour la réalisation des images, encore une fois parce que moi je peins, alors maintenant on dit traditionnel, c'est un peu étrange de dire ça, mais je peins simplement avec des pinceaux sur du papier.
Donc, et non pas la palette graphique comme procèdent beaucoup d'illustrateurs aujourd'hui, je dis ça sans certains, jugement, mais vous ne faites pas comme ça.
Certains, oui, peuvent travailler comme ça, il n'y a pas de pomme diète possible, donc je suis déjà obligée de concevoir à l'avance que mon image mentalement, parce que je peux pas me reprendre tellement. Donc le rythme de la fabrication est différent. Il y a pas d'improvisation, si vous voulez. Et après, moi, personnellement, j'ai le goût de passer du temps. C'est un espèce de moment un peu méditatif de réaliser comme ça tout en détail mes images. Et après, pour ce livre-là, c'est vrai qu'il a fallu que je consacre aussi du temps à la conception de, comment dire, technique. Il faudrait, c'est vrai que c'est pas très radiophonique, il faudrait le voir, mais il y a donc cette centaine de décors les uns derrière les autres qu'il a fallu placer au bon endroit pour qu'ils puissent se révéler les uns après les autres au bon moment. Puisqu'on a à l'ouverture du livre, on a l'ensemble des pages sous le nez, mais les éléments se cachent les uns derrière les autres comme sur une scène de théâtre en quelque sorte. Et donc là, ça a été un casse-tête qui m'a pas forcément demandé des mois et des mois de réflexion, mais un long moment intense pour résoudre le casse-tête. Voilà, moi, c'est vrai que j'aime le travail bien fignolé, bien fini. Je suis pas trop dans la spontanéité, et c'est aussi comme ça que j'imagine la lecture des ouvrages que je propose.
Alors, Sylvie Vassallo, c'est aussi une caractéristique des albums qui peuvent s'adresser à des lecteurs plus petits et peut-être moins soigneux, que de proposer aux lecteurs de découvrir leurs images en plusieurs fois parce qu'il y a des détails, parce que il y a des petits personnages cachés. Alors je pense au Poussin Blaise de Claude Ponty, voilà, vous connaissez mieux la littérature jeunesse que moi. Est-ce que c'est comme ça quelque chose qui revient souvent dans les albums?
Oui, alors déjà les illustratrices et les illustrateurs jeunesse prennent effectivement beaucoup de temps pour écrire et dessiner leurs histoires. En fait, ils s'adressent à un public qui est petit et qui fait sa première expérience de découverte des arts finalement à travers la littérature de jeunesse. C'est leur exigence, leur demande de créer des images qui, contrairement à ce qu'on peut imaginer en direction des enfants et parfois des bébés, sont pas forcément des images simplissimes. Et ça fait référence au fait que les enfants aiment bien lire, relire, re-relire. Quand il y a un livre qu'ils aiment, ils aiment bien y revenir. Donc c'est vrai aussi du texte d'ailleurs, mais quand ils sont tout petits, ils sont aussi très attirés par les images, et ils aiment bien découvrir des choses que parfois les adultes ne découvrent pas. Donc souvent dans un livre pour enfants, il y a plusieurs histoires en une, et même quand il n'y a pas plusieurs histoires en une, les enfants sont capables, eux, de suivre des histoires de personnages qui sont pas forcément le personnage principal. Ils vont suivre le lapin, ils vont suivre les oiseaux, ils vont suivre, voilà, ils aiment bien prendre du temps, se plonger dans les images
et se raconter d'autres histoires. Mais finalement, cette histoire justement de page qui en cache une autre, qui en cache une autre, et qui à la fin, prennent un sens parce qu'elles sont les unes à la suite des autres, c'est bien ce qui se passe avec le texte, Victor Pouchet.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Il y a une exigence très forte dans le livre pour les enfants, parce que en effet l'enfant ne fait pas que lire comme souvent les adultes, il relit. Et donc ça veut dire que c'est peut-être beaucoup plus difficile d'écrire et de dessiner un livre pour enfants, parce qu'il faut que ce soit un livre qui supporte la relecture et donc qui soit assez à la fois assez précis et assez riche pour que l'enfant ait envie de le relire et aussi ait envie d'y revenir. Et c'est pour ça que moi j'ai joué avec la forme du conte qui parsème le livre de refrains, de répétitions dans lequel on peut se retrouver avec des légères variations, et ça c'est à la fois pour moi un plaisir d'écriture, et j'espère que ça produit aussi à la fois un sentiment d'habitude et de la variation de la nouveauté. Et ce qui est très intéressant dans la façon dont on peut regarder des planches d'un livre jeunesse, c'est que on peut les regarder très lentement, mais il y a une intensité d'attention, et c'est ça peut-être l'éloge de la lenteur, c'est l'éloge d'une autre forme de rapport au réel, qui serait un rapport qui étendrait l'attention pour que tout d'un coup, le rythme s'apaise, mais l'intensité ne s'apaise pas. Et pour qu'on ne tombe pas dans, en effet, cet écueil que l'on a tous connu à l'école et dans bien d'autres moments, qui est l'ennui, et qui est ce temps qui se déploie comme ça et qui dans lequel on s'englue avec angoisse. Et le livre, peut-être, la planche, l'histoire permet de s'échapper de ça, de trouver un moyen de sortir de ce temps dilué.
Et d'ailleurs, ce livre, l'enfant peut le reposer à tout moment pour en choisir un autre, pour se tourner vers une autre activité. Vous voyez la lecture, Sylvie Vassallo, vous avez commencé à nous le dire au début de cette émission, comme un refuge aujourd'hui face aux écrans, face aussi au temps contraint à la fois de la scolarité, même s'il faut bien aller à l'école, hein, personne ne dira le contraire ici, ou même aux loisirs balisés par les adultes.
Je vois la lecture à la fois comme un temps personnel, comme un temps propre qui nous permet de grandir. Et évidemment, pour les enfants, c'est encore plus important que pour les adultes. C'est important pour les adultes, mais les enfants ont besoin de multiples expériences à faire et qu'ils peuvent faire au travers de la littérature. Et je la vois, ça peut sembler paradoxal, mais ça l'est pas du tout. Je la vois également comme un temps partagé. Un temps partagé entre les parents et les enfants. Et ce temps-là, il est aussi un temps refuge, un temps absolument précieux que la société peut nous pousser à oublier. Et pour autant, ce temps à la maison où les parents et les enfants lisent ensemble, partagent ensemble des images, partagent ensemble des histoires, partagent ensemble des textes, mais aussi des sensations qui passent à travers la voix du parent lecteur, pour moi, c'est un temps extrêmement précieux. Donc l'enfant est à la fois avec le parent à ce moment-là et il est aussi dans sa propre expérience, dans sa propre, dans son propre ressenti, dans sa propre constitution de personnalité. Et pour moi, ça, évidemment, c'est absolument indispensable.
Alors, on le sait, ce salon se situe à Montreuil, et c'est le salon de Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, mais ce n'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, beaucoup de zones d'éducation prioritaire, là où les enfants et leurs familles lisent moins que la moyenne, là où peut-être il faut aussi convaincre les familles de prendre leur temps pour lire. Ça fait partie de votre mission aujourd'hui. Est-ce que ça suffit de dire prenez votre temps, vous allez voir, c'est super. Comment on fait ? Comment vous faites aujourd'hui ?
C'est peut-être un des sujets sur lequel on est le plus déterminé et le plus actif dans notre équipe. En fait, on a mis en place une opération qui s'appelle Délivre à soi, qui est une opération pour non seulement convaincre les parents qui sont en difficulté pour raconter des textes à leurs enfants, pas seulement les convaincre de le faire, mais les aider à le faire. Parce qu'il y a des familles qui n'ont pas forcément l'habitude de faire entrer des albums et des histoires dans le cadre familial, des histoires écrites. Il peut y avoir des histoires orales, mais pas forcément des histoires écrites. Et pour qui c'est complètement difficile de le faire, parce que soit ils ne possèdent pas la langue française à l'écrit, ou parce que ils n'ont pas cette habitude. Et donc, par exemple, cette opération qui se mène dans les quartiers prioritaires de la Seine-Saint-Denis, c'est une action sur une année de formation des parents à des méthodes de lecture par l'image. Il y a des chèques lire aussi qui leur permettent d'aller en librairie. On les accompagne en bibliothèque.
C'est quoi une méthode de lecture par l'image, par exemple ?
Mais en fait, c'est exactement ce que Rebecca Dotremer nous a expliqué dans la création de son livre tout à l'heure. C'est que les illustrateurs jeunesse arrivent à créer des images, des grandes planches d'images qui permettent de suivre les histoires en suivant les images, en apprenant à lire les images. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment une relation avec le temps, parce que c'est des images qu'on ne peut pas feuilleter comme ça à toute vitesse. Il faut s'arrêter. C'est comme pour le texte, c'est comme pour la poésie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se laisser imprégner et il faut arriver à découvrir quelque chose pour soi dans l'image qui va nous conduire. Il faut découvrir le fil qui va nous conduire. Et en l'oralisation de cette lecture par l'image, ça peut tout à fait permettre à des parents en difficulté autour du texte écrit d'accompagner leurs enfants dans la lecture. Donc c'est une expérience. En termes de chiffres, c'est pas là que nous accumulons le plus de public, parce que le salon, lui, est beaucoup plus grand, mais c'est une activité qui est minutieuse et qui montre justement qu'il y a encore beaucoup à conquérir sur la question de la lecture et de la lecture entre les parents et les enfants.
Alors, dans ce être et savoir consacré à la question du temps, ou plutôt de la lenteur dont on doit faire l'éloge aujourd'hui, puisque elle n'est plus tellement mise à l'honneur, à part peut-être quand on défend la lecture, comme on l'a fait aujourd'hui avec vous, Sylvie Vassallo. On s'est interrogé sur le rythme, vous en avez parlé, Victor Pouchet, et la désynchronisation. La désynchronisation, il nous a semblé que c'était un thème qui concernait beaucoup les parents d'adolescents et les adolescents eux-mêmes. C'est pour ça qu'on en a parlé avec David Le Breton.
Le temps adolescent est vraiment rivé sur le présent, avec une grande difficulté à intégrer l'avenir, Mais en même temps, je pense que beaucoup d'adolescents vivent des journées relativement contrastées, avec des moments d'hyperactivité, avec des moments de suspension, des moments d'oisiveté, en quelque sorte des moments d'accélération et de ralentissement. Ce qui me paraît être l'une des grandes caractéristiques de la temporalité adolescente, c'est la désynchronisation, c'est-à-dire un refus des temporalités et des ritualités adultes, un refus de l'hétéronomie et une volonté de vivre un temps à soi, même si ce temps va être en décalage avec celui des parents ou des frères et des sœurs, et même si cette désynchronisation risque fort de perturber profondément les rythmes familiaux. Le jeune impose de cette manière son désir d'autonomie, d'indépendance. Il exprime son originalité, il exprime son souci de voler de ses propres ailes. Et ce n'est pas toujours facile à gérer, évidemment, pour les parents, mais aussi pour les enseignants, pour les animateurs, pour les entraîneurs sportifs éventuellement. Il y a une contradiction nette entre le temps des adolescents et le temps des parents. Le temps des parents, c'est un temps d'adulte, c'est-à-dire un temps qui inclut en permanence l'avenir, l'organisation des tâches, donc la projection dans la durée. Mais surtout aussi, dans leur responsabilité éducative, c'est un temps qui inclut le souci de l'intégration sociale de leurs enfants, qui les amène parfois à une espèce de tyrannie des résultats scolaires ou des projets, une surveillance inlassable effectivement du temps de l'adolescent, alors que lui, l'adolescent, il a du mal à voir au-delà de l'instant qu'il vit ou au-delà même du jour. Il faudrait donc construire une espèce de dialectique finalement dans cette reconnaissance du temps de l'adolescent qui est vraiment immergé dans le moment qui est là, et le temps également des adultes, puisque le temps des adultes n'est quand même pas tout à fait indifférent à celui des enfants. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas toujours vivre dans l'éternité du présent. Il doit également préparer son avenir. Mais en même temps, il ne faut pas que le temps des parents, donc des de complètement s'impose à lui et se transforme en une sorte de tyrannie que de toute façon l'adolescent risque fort de freiner de mille manières différentes.
Alors, tyrannie de la vitesse, aujourd'hui nous parlons de la lenteur, mais cette lenteur évidemment elle est très peu valorisée dans le monde adolescent.
Oui, lenteur et jeunesse ne riment pas énormément ensemble, dans la mesure où la jeunesse est plutôt une époque de la vie où on est dans une effervescence intérieure, dans une volonté de vivre au maximum, d'expérimenter tout ce qui est possible à un moment donné, saisir toutes les occasions, ce qui implique quand même une certaine accélération, une certaine vitesse, une manière de se laisser emporter parfois par ses désirs, alors que la lenteur davantage relève d'un regard, d'une distance avec le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit finalement assez peu de jeunes marcheurs, hein, je parle d'expérience, et en revanche les jeunes qui marchent, par exemple lorsqu'on emmène des jeunes mineurs délinquants sur des très longues marches, sur des milliers de kilomètres, c'est absolument formidable la manière dont ils retrouvent un usage du temps qui n'est plus dans la précipitation, qui n'est plus dans la frénésie du portable et dans l'écoute également interminable de la musique. Ce sont des jeunes qui peuvent avoir 14, 15, 16 ans, 17 ans, qui vont s'ouvrir au monde, qui vont s'ouvrir à nouveau à la conversation. Et la conversation, c'est un monde davantage de lenteur, hein, au regard de la fulgurance des réseaux numériques et de l'ubiquité que cherche très souvent le jeune en multipliant les contacts, en multipliant les vies finalement, hein, qu'il aimerait avoir. Là, le fait de marcher, c'est une manière de retrouver son ancrage dans le monde.
Alors David Le Breton, dernière question, que perdrait-on à ne pas perdre de temps?
Je pense qu'on y perd sa vie, tout simplement, puisqu'on est pris dans un rythme, dans une course qui fait que nous perdons toute attention à l'environnement, toute attention aux autres. On est pris dans cette espèce d'absence de mémoire également. C'est se priver également de la rêverie, une rêverie qui est tellement importante pour un adolescent qui doit fantasmer le monde qui est le sien, qui doit plonger dans son univers intérieur. En ce sens d'ailleurs, l'ennui, l'oisiveté sont aussi des moments où le jeune se construit, où il essaie de prendre une distance à l'égard du monde qui l'entoure. Prendre son temps, ça a à voir avec la concentration, avec cette capacité que nous pouvons avoir de suspendre le temps, et de se sentir d'ailleurs aussi vivant, de se sentir exister, de ne pas se sentir en permanence emporté par des rythmes sociaux qui nous échappent complètement. C'est donc une manière pour l'adolescent de prendre son temps et de ne plus laisser le temps le prendre et même peut-être le dévorer à certains moments quand il est pris notamment dans les impératifs de rendement qui sont ceux de l'école, qui sont ceux des devoirs, qui sont ceux des contrôles continus, des examens, etc. Donc prendre son temps, c'est évidemment une valeur absolument essentielle dans le monde contemporain, qui est le monde de la liquidité, le monde de l'urgence, mais un monde sans mémoire également, puisque quand on va très vite, évidemment, on n'a pas le temps d'accumuler une mémoire, une perception de la complexité des choses autour de soi. On est emporté dans un flux qui nous prive d'ailleurs pour une large part de notre autonomie et de notre responsabilité sur les événements.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps passé, celui qui va naître. Le temps d'aimer et de disparaître. Le temps des pleurs, le temps de la chance. Le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps glorieux.
Prendre son temps pour se sentir exister, nous a dit David Le Breton, anthropologue. On l'entendait juste avant en cette chanson, dans cette émission, sur Être et Savoir, consacrée à la lenteur, l'éloge de la lenteur. C'est le thème du prochain Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, c'est-à-dire de Seine-Saint-Denis, et il s'ouvre mercredi. Nous avons parlé de la marche avec David Le Breton, qui marche lui-même, qui a consacré un ouvrage à cette question. Et Victor Poucher, qui est auteur et auteur jeunesse, vous réalisez, année après année, le plus long tour de France à pied. Et vous le faites avec des amis d'enfance.
Oui, alors en fait, c'est la huitième année. On a commencé il y a 8 ans avec deux amis d'enfance, un tour de France par étape. Donc on a commencé à Brest et à pied. Donc on marche une semaine par an le long des côtes, pour le moment, bretonnes, donc à une vitesse très réduite, puisqu'on marche qu'une semaine et que notre ambition est tout sauf staccanoviste. Et l'idée, c'est donc de mener ce tour de France jusqu'à son but. Et pour le moment, selon nos projections, on finirait le tour en 2065. Donc c'est à la fois là, une projection dans la durée avec un espoir que notre amitié dure, ça m'inquiète pas trop, que notre corps nous permette de tenir la route jusque là. Et en effet, pour moi, c'est quelque chose de, c'est un moment important dans mon année, cette semaine de marche, parce que le rythme change et parce que aussi on se laisse aller à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que voilà, que ça soit intéressant, inintéressant, beau, et ben on prend le temps de marcher et voilà.
Est-ce que c'est inspirant pour l'écriture?
Alors c'est quelque chose dont j'aimerais un jour faire un livre, mais je peux pas le faire trop tôt dans la mesure où on en a vraiment qu'au début, puisque c'est 8 ans de marche et il en reste encore plus de 40. Donc c'est inspirant. C'est inspirant pour l'amitié, pour la conversation. Évidemment, ce que disait David Le Breton sur la puissance de la marche comme quelque chose qui change le rapport aux autres. Ça me semble très très juste parce que les rencontres qu'on fait sur un chemin, elles sont tout à fait différentes de celles qu'on peut avoir évidemment dans le rythme urbain, même dans le rythme de vacances qui sont organisées différemment. Ouais.
Et donc la marche peut aussi avoir des vertus éducatives à tout âge, mais évidemment on l'a entendu à l'adolescence et peut-être et sûrement dès l'enfance. Si on revient aux écrans qui sont souvent dénoncés comme de véritables aspirateurs à attention et à temps des enfants et des adultes, on peut aussi parler de l'objet livre numérique, lire sur écran. Finalement, est-ce que ça a une place, ça, dans la littérature jeunesse? On sait que pour les adultes, finalement, le livre numérique n'a pas tellement creusé son sillon. Sylvie Vassallo.
Alors en fait c'est une question un peu difficile parce que c'est vrai que les enfants passent un temps fou sur les écrans comme les adultes et qu'il y a beaucoup d'écrans à la maison et on ne sait pas toujours tout à fait bien ce qu'ils regardent sur les écrans. En tout cas, il y a de la littérature de jeunesse sur écran, mais pour le moment, elle n'est pas spécialement dans une période très très dynamique. Et la création numérique littéraire pour enfants n'a pas non plus complètement explosé. C'est un peu comme si on n'avait pas trouvé de modèle à ça. Et pour autant, ce serait bien que ces écrans, enfin que ce temps passé sur les écrans puisse permettre aux enfants de voir des œuvres créatives de qualité sur les écrans. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop abandonner la question de l'écran, parce que je pense qu'avec le temps qu'ils y passent, il faut d'une part les accompagner sur ces écrans, évidemment pas les laisser seuls. Et puis par ailleurs, on ferait bien tous ceux qui travaillent dans le monde artistique et de la création d'essayer d'emplir ces écrans d'œuvres intelligentes et qui ouvrent l'esprit des enfants.
Alors ça doit marcher aussi avec les images animées, dessins animés par exemple. Et puisque vous faites l'éloge de la lenteur au salon du livre et de la presse jeunesse, je me suis demandé ce qu'il en était quand on regardait donc des images animées.
La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Sacha devient...
Yo-yo !
Amaya devient... Greg devient...
Blu-blu ! Les pyjamas !
Deux époques, deux ambiances. Au début, c'était la musique d'un dessin animé tchèque, La Petite Taupe, qui était extrêmement lent et qui s'adresse plutôt au tout petit, même s'il ne faudrait pas mettre d'enfant devant un écran avant 3 ans. Et ensuite, ces pyjamas qu'on peut voir sur des chaînes pour enfants. Je ne connaissais pas ce dessin animé, c'est Philippe Baudouin qui l'a choisi. Et vous pouvez juger à l'écoute qu'il est assez rapide. C'est aussi un dessin animé qui s'adresse à des enfants très petits, puisqu'on est un super-héros quand on est en pyjama. Sur cette différence de rythme, je voyais réagir Victor Pouchelet.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est en effet, c'est flagrant, l'accélération des stimuli sensoriels, ça soit, là on n'entend que le son, mais à l'image aussi, je pense que ça se verrait très vite. Et j'ai lu il y a quelques temps dans un article paru dans Le Monde qui comptabilisait un peu essayer de compter l'accélération, et notamment dans les images, qui relatait cette information que entre 1930 et aujourd'hui, le temps moyen d'un plan au cinéma est passé de 12 secondes à 2 secondes et demie. Donc il y a une accélération qui ne se joue pas évidemment que pour les enfants. Je veux dire, elle se joue pour tous et ça se passe pas simplement au cinéma, mais aussi pour la musique où le tempo des tubes américains a augmenté de 8% en 30 ans. Enfin, il y a quelque chose là qui est très marquant et qui est lié eh bien évidemment au désir des auditeurs et des spectateurs. On est de plus en plus impatients et donc évidemment l'industrie musicale et audiovisuelle répond à cette impatience.
Et qu'en est-il de l'industrie du livre, puisque là aussi la demande change. La petite taupe, alors je vais quand même dire l'auteur Zdeněk Miller, donc des années 60, elle a son équivalent évidemment en dessin. Est-ce que vous voyez aussi dans les parutions quelque chose qui va vers, si ce n'est la rapidité, au moins une autre notion du temps, de la mise en image, de la mise en texte, du bruit comme ce qu'on a un peu entendu avec ces dessins animés, Sylvie Vassallo.
Alors si on parle, je sais que ce n'est pas votre question, mais si on parle de la question de l'industrie, parce que vous avez utilisé le terme, il y a dans l'industrie du livre de jeunesse cette accélération de façon absolument manifeste, parce que le nombre de publications pour enfants a complètement explosé, et comme le taux de natalité n'a pas du tout explosé, on imagine bien qu'il y a aussi cette accélération comme ça, cette espèce de rythme fou
de l'époque
qui arrive aussi en direction des lecteurs, comme ça une grande somme de livres qui arrivent et dans lesquels on a un peu de mal à se repérer. Il y a aussi des phénomènes éditoriaux qui font référence à cette accélération, comme les séries, par exemple, toutes les séries de littérature ado et cette explosion aussi la littérature ado à un moment donné.
Alors
qui
là,
s'est un
on
peu calmé.
Des milliers et des milliers de pages.
Voilà, 10, des milliers de pages tomes. À toute vitesse. Il y a cette idée de lire vite aussi, on dit les page turners, c'est vraiment cette littérature qu'on lit comme ça à toute vitesse. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a parlé, enfin qu'on a envie d'évoquer ce thème, et y compris d'utiliser le terme d'éloge avec les enfants, parce que dans la littérature de jeunesse, il y a ça et il y a aussi plein d'autres choses et on avait envie de prendre le temps de voir cette diversité. Bon, on a entendu Rebecca D'Outremer parler de ces images, il y a des dizaines d'auteurs, d'illustrateurs, vous l'avez dit aussi dans votre manière d'écrire, qui prennent aussi ce temps-là, et d'ailleurs ceux qui écrivent des séries pour littérature ado, peut-être aussi et certainement. Et donc, voilà, on a envie de montrer cette diversité-là.
Mais puisque vous parlez de ces séries qu'on lit vite et en quantité, on peut penser à Rick Riordan, ouais, qui écrit de nombreuses séries. Alors, ce sont des dystopies, ce sont des séries sur la mythologie et sur les mythologies, d'ailleurs, parce qu'il y a la mythologie nordique, en plus de la mythologie grecque. Est-ce que vous défendez une certaine littérature face à une littérature qui s'ingurgiterait trop rapidement ?
Non, parce que je pense qu'il y a la possibilité de prendre des expériences et de prendre des plaisirs dans de multiples formes de littérature. Ce qu'on a envie de défendre surtout, c'est la possibilité que le lenteur existe dans la lecture, dans l'écriture et dans l'expérience littéraire, et plutôt que d'avoir une seule normalité en fait autour de la lecture. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout, mais qu'on a peut-être moins l'habitude aujourd'hui de prendre son temps.
Alors je voudrais qu'on écoute les premières mesures d'une chanson et je vais vous expliquer pourquoi.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day.
Cette chanson s'appelle Time in a Bottle et elle intervenait dans un film dont le titre me fait encore et toujours rire. C'est un film de 2014, X-Men Days of Future Past, de Bryan Singer. Comme beaucoup d'histoires de super-héros, il est question de temps distordu. Alors c'est très particulier aux X-Men, mais dans la science-fiction en général, science-fiction qui fait florès, et je reviens à la littérature pour les publications destinées aux adolescents, on a beaucoup d'histoires de futur, de dystopie, je le disais, de retour dans le temps, la if history, comme on dit, si le passé avait été différent, à quoi ressemblerait l'avenir. Il semble que cette préoccupation occupe beaucoup, beaucoup de place sur les rayons des librairies et des bibliothèques, Sylvie Vassallo.
Oui, c'est vrai, je pense que c'est une façon finalement de parler du présent. Parce qu'en parlant du futur, en parlant du passé, en se projetant dans d'autres mondes ou dans d'autres époques, on ne fait que parler de notre temps présent et qu'imaginer notre temps présent et que prendre sa place dans le temps présent. Et pour les adolescents, c'est une sorte de miroir qui leur est tendu pour entrer en réflexion aussi par rapport à leur propre questionnement et par rapport à ce temps présent.
Victor Pouchet, sur ce temps dont on ne finit pas de parler, à la fois comme un temps qui fait matière à réflexion pour soi, mais aussi pour le monde, avec cette angoisse du futur. Et là, on peut aussi parler de la question environnementale, ce futur, puisque vous avez écrit sur cette question avec votre ouvrage sur les oiseaux, ce futur qui peut sembler extrêmement angoissant aux jeunes générations et même à la nôtre, aux adultes.
Oui, là, je pense vraiment que j'ai vraiment tendance à, presque pour tout ce qu'on a dit, on pourrait l'élargir. C'est-à-dire que ça concerne les enfants et ça nous concerne tous. On est à l'accélération du temps, mais aussi un temps que l'on a l'impression qu'il est de plus en plus cerné par l'urgence, hein, par une urgence climatique, quelque chose qui fait que les projections apocalyptiques se multiplient, évidemment aussi dans la fiction, parce que elles viennent répondre à tous ces questionnements politiques, sociaux, et donc c'est sans doute une des raisons qui explique la multiplication de ces livres de science-fiction ou d'anticipation. L'autre raison, c'est qu'il y a une grande efficacité narrative. Évidemment, ça produit énormément d'excitation, hein, que de se projeter dans un temps imaginaire, d'inverser le temps, que de donner des talents de maîtrise du temps très grands à des personnages. Ça crée de l'accident et c'est quelque chose qui n'est pas neuf pour le coup. On le retrouve dès le XVIIe siècle, dès le XVIIIe siècle. Ça se poursuit parce que c'est peut-être narrativement un outil ou un principe qui est le plus puissant.
Sylvie Vassallo, en plus des rencontres proposées avec des auteurs jeunesse, vous proposez aussi des conférences données par des intellectuels qui réfléchissent sur le temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, le temps et l'usage du temps et le temps aujourd'hui,
pas trop rentrer dans les questions. En écoutant tout à l'heure David Le Breton, je pensais justement que le salon allait être ouvert par Jean-Louis Etienne, qui est lui-même un grand marcheur et qui va nous amener les jeunes qu'il rencontrera à réfléchir aux questions du temps. Et puis en clôture du salon, il y a Jean-Gabriel Ganachia qui va lui nous faire réfléchir à l'humanité numérique, c'est-à-dire justement...
C'est pour les enfants ou c'est pour les adultes?
Ce sont des grands intellectuels qui parlent à des enfants et qui parlent avec les enfants, puisque c'est le principe du salon que d'être en dialogue et pas seulement en face à face et en conférence. Donc oui, ils parlent avec les enfants et je pense qu'ils ont justement l'intelligence ou la simplicité de l'intelligence ou l'intelligence de la simplicité. En tout état de cause, ils vont prendre le temps de permettre aux enfants d'acquérir la complexité du monde sur cette question de la temporalité, de la lenteur et de l'ensemble des questions philosophiques que cela ouvre.
Et puis vous accueillez aussi des écoles et des classes.
Oui, on a 31 000 enfants qui sont inscrits aujourd'hui dans le cadre de visites scolaires et qui sont en train de préparer leur visite au salon. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les livres des auteurs, ils commencent à les regarder. Et ça nous semble très important parce que pour tutoyer la littérature, il faut avoir une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur des livres. Et pour ces enfants-là, voilà, ce temps de préparation est évidemment extrêmement important.
Bon, et peut-être un jour vous ferez une édition sur le bruit, mais c'est une autre histoire, parce que quand il y a beaucoup d'enfants, il y a forcément un petit peu de bruit.
C'est vrai.
On a fait une petite sélection, Sylvie Vassallo, alors elle n'est pas du tout complète, mais c'est celle d'Avril Ventura et de moi-même, donc sur des livres pour enfants consacrés à la question du temps, dans ses grandes largeurs. Les choses qui s'en vont de Béatrice Alemania, c'est chez Helium. 100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie, de Heike Faller et Valerio Vidali. C'est aux éditions du Sous-Sol. Vite, 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 chez Rue du Monde, c'est par Clotilde Perrin. Et si on savourait la lenteur ensemble, un bon livre pour parler du quotidien parents-enfants. Robert et Gélatine, une histoire pour les grands, c'est publié à La Joie de lire et c'est signé Germano Zullo et Albertine. Et puisque je parlais de La Joie de lire et qu'on a beaucoup parlé cette semaine de la Convention des droits de l'enfant, Convention internationale des droits de l'enfant, ce beau dictionnaire des droits de l'enfant, il est publié donc chez le même éditeur, La Joie de lire, il est signé d'une juriste, Marie-Françoise Lucaire-Babel, et illustré par Pauline Carleroux, et il est très beau, je le redis. Et que dire encore? Eh bien, que la semaine prochaine, nous parlerons de l'influence des classements sur l'éducation, à la fois sur l'école et dans le supérieur, parce que bientôt, vous le savez, PISA, c'est le classement de l'OCDE qui paraît tous les 3 ans. Et puis, dans un instant, après la chanson, comme promis, ce sera la leçon de choses de Sophie Bobert. Merci beaucoup, Sylvie Vassallo. Merci beaucoup, Victor Pouchet.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time.
Et en cette fin d'émission, Sophie Bobert nous emmène au cirque avec sa leçon de choses. C'est Firmin Grus qui nous parle de son héritage, un héritage bien particulier.
Notre famille est dans le spectacle équestre depuis 1854. Je suis la 5e génération avec mon frère Stéphane. Moi, je suis la partie administrative et technique. Et j'ai le poste de gérant aussi. Et lui, il a la direction artistique.
Mais vous êtes sur scène aussi, Firmin Grus. Hein, on vous voit.
Et c'est la particularité chez Alexis Grus, c'est qu'il y a dans la bouteille ce qui est sur l'étiquette. C'est-à-dire que tous les membres de la famille sont à des postes de responsabilité de cette entreprise et en même temps sont tous artistes. Et on a tous une discipline personnelle, c'est-à-dire moi c'est l'échelle libre, mon frère c'est le jonglage, ma sœur c'est le fil, etc. Et on est tous, par contre, cavaliers. Ça c'est notre particularité. Il y a 50 chevaux qui constituent notre cavalerie. Et on crée les spectacles de A à Z, les Folies Grus. La nouveauté de cette année, c'était pour mettre en avant vraiment l'ADN. L'ADN de cette passion, de cette exception aujourd'hui, d'avoir une famille de 12 membres qui sont tous artistes et tous peuvent créer un spectacle de A à Z. On a un mode d'éducation, les valeurs qui sont transmises de nos parents et nos arrière-parents, etc., nous ont permis d'être satisfaits de ce que l'on sait faire. Et quand vous goûtez à la piste à l'âge de 4-5 ans, pour la première fois, vous avez l'occasion de rentrer avec vos parents ou dans un spectacle, faire une petite apparition, et que vous découvrez ces lumières et ce public, ces applaudissements et ce regard avec les étoiles qui brillent dans les yeux des spectateurs, on peut pas, c'est une chance.
Quand c'est magique. Avez... Vos premiers souvenirs à vous, Firmin Gruss, il se situe là, sous un chapiteau.
Oui, et puis moi, j'ai eu la chance en 87, par exemple, de faire d'avoir mon premier rôle, comme cette année, par exemple, ma fille qui a 9 ans. Moi, j'en avais 7 à l'époque. Et j'avais un rôle fil conducteur dans le spectacle qui s'appelait De Lautrec à Picasso. Et j'étais là pour je montais déjà debout à cheval sur au galop et je sautais la cravache à l'âge de 7 ans. Quand vous avez la chance de faire ça, c'est un exploit. Et puis vous avez surtout envie de le transmettre.
Mais est-ce que vous alliez à l'école parfois pendant 3 ou 6 mois comme les autres, ou est-ce que vous étiez sans cesse suivi par un professeur particulier qui vous suivait peut-être lorsque vous partiez en tournée aussi? Comment ça se passait?
Oui, ben nous, non, j'ai toujours été scolarisé dans la compagnie. Je suivais toujours mes parents, j'ai jamais été scolarisé sédentaire. Et c'est vrai que c'est formidable parce que ça permet de programmer l'emploi du temps en fonction des nécessités de travail. C'est-à-dire que la voltige, c'est à 11h. Avant 8h, avant 9h, on peut des fois aller aux chevaux, donner un coup de main. Ma fille fait ça. Ma fille, elle se lève à 7h. À 7h30, elle est aux chevaux. Et à 9h, elle va à l'école. Jusqu'à midi. À midi, elle a la pause. On répète la voltige pendant 1h. L'acrobatie à cheval avec sa sœur. À 13h, elle va déjeuner. À 14h, elle reprend l'école. Et en fin de journée, vers 17h, elle fait 1 heure de danse avec ma mère. Mais c'est un travail permanent, quotidien. Il n'y a pas d'intermittence dans la cavalerie, il n'y a pas d'intermittence dans notre travail. C'est 12 mois sur 12, 365 jours par an et du matin au soir.
Mais est-ce qu'on a le droit de se lasser lorsqu'on a 8 ans, 15 ans peut-être, lorsqu'on est adolescent? Je vous vois sourire. Dans quelle mesure a-t-on le droit chez les Gruss de rêver de faire autre chose en fait?
Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'avait pas le choix. Pour garder notre travail et le faire évoluer à cette époque, on était obligé de faire des concessions. Et ce qui est rigolo, c'est que la sixième génération parfois nous appelle la génération sacrifiée. Mais on en est fiers. On n'a pas sacrifié pour rien.
Mais qu'est-ce que vous avez sacrifié, Firmin Gruss, hein?
On a fait beaucoup. On a monté les chapiteaux, on a créé les spectacles, je vous le disais, avec 7-8 personnes.
Alors ça, c'est ce que vous avez réalisé, mais qu'est-ce que vous avez sacrifié?
Le loisir, les vacances. Moi, je suis parti pour la première fois en vacances pendant une semaine à l'âge de 21 ans. J'ai jamais quitté ma famille avant 21 ans. Donc ça, c'est quand même des choses. Et quand j'ai alors, par contre, quand vous partez à 21 ans en vacances pour la première fois, je peux vous dire que vous en profitez. Je me rappellerai toute ma vie de mes premières vacances. J'ai eu l'impression que ça durait une éternité.
Les grasses matinées, c'est ça?
Même pas, non, les gens me prenaient pour un fou dans le club où j'étais. Ils disaient, mais tu t'arrêtes jamais. Mais oui, parce que j'étais tellement heureux d'être en vacances et j'avais tellement d'énergie à revendre que je faisais toutes les activités, et la nuit et le jour. Et ça, ce sont les moments qui forgent la vie belle. Et ensuite, on a envie que les autres le vivent aussi, les enfants. Moi, je vois ma fille, Célestine, elle s'amuse sur la piste. Et quand on voit un enfant qui s'amuse, quand on sait qu'il a passé beaucoup de temps à l'école, quand il a souffert un petit peu à la danse, en faisant les grands écarts, ça fait mal. Ou la voltige, elle a pleuré parce qu'elle a pas réussi aujourd'hui. Et quand on arrive au moment du spectacle, qu'on voit leur grand sourire et leur grand plaisir, c'est la plus belle ère de jeu que l'on peut imaginer.
Mais Célestine, ça signifie qu'elle sera sur la piste pendant les vacances de Noël?
Bien sûr, elle sera sur la piste. Mes deux filles, Jeanne et Célestine, seront sur la piste avec toute la famille.
On va leur souhaiter joyeux Noël, alors, même si c'est un peu en avance.
Bien sûr, joyeux Noël.
Joyeux Noël, un peu en avance. Là aussi, on était en plein dans notre thème du jour, le temps et la manière dont il passe. Je vous indique le spectacle de Firmin Gruss, Les Folies Gruss, se joue à Paris jusqu'au 5 janvier. Et on se retrouve en podcast ou à 17h dimanche prochain sur France Culture.